Soyez les bienvenus, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle. Je vous dirai celle de Monsieur D. Monsieur D. Une nouvelle écrite et lue par Bernard Bonne. Quand Monsieur de Bergerac, mon voisin du dessus, mourut subitement il y a quelques années, j'étais loin de me douter des conséquences que cet événement aurait dans ma vie. Je l'avais toujours appelé, je ne sais pas pourquoi, Monsieur D, peut-être pour lui conférer une sorte d'anonymat, et il est vrai que je le connaissais très peu. Il m'arrivait de le croiser dans notre immeuble ou dans la rue, mais c'était juste bonjour, bonsoir, et nos relations ne sont jamais allées au-delà de cette politesse distante. Je fus très surpris par sa mort, car il me semblait encore assez jeune, pas plus de 60 ans, et en bonne santé. Il marchait d'un pas vif, il montait les escaliers sans aucune difficulté, et il fréquentait assidûment la piscine de notre quartier. Mais sa mort me troubla surtout parce qu'il avait à peu près le même âge que moi, et ensuite, parce que nous avions deux points communs importants. Lui, comme moi, ne recevait jamais la moindre visite, et par ailleurs, nos deux vies semblaient réglées par des habitudes d'une ponctualité presque militaire. Je vécus ainsi son départ brutal comme un abandon, presque comme une trahison, même si je ne savais quasiment rien de lui. Le lendemain de sa mort, un jeune homme, son neveu, arriva pour s'occuper des obsèques. Je me présentai à lui, lui expliquai que j'étais un voisin, mentis un peu sur ce qui me liait à son oncle en disant que j'entretenais des relations amicales avec lui et proposai mon aide, par exemple en m'occupant du courrier, lequel n'allait pas manquer d'arriver. Le neveu accepta mon offre sans hésiter et sans poser la moindre question. C'était ce qu'on peut appeler un homme pressé, pressé à tout point de vue, comme le sont certaines personnes, pressé de naissance, en quelque sorte. Et la solution que je lui apportais répondait si bien à ses attentes qu'il ne chercha même pas à en évaluer les éventuels inconvénients. Et c'est ainsi qu'un matin de mai, tandis qu'un corbillard emmenait le cercueil de Monsieur D vers le cimetière de Ribérac, en Dordogne, où l'attendaient deux frères et une sœur déjà inhumés, je me retrouvai avec la clé de sa boîte aux lettres dans la main.
On s'écrivait de tendres choses, des mots pervers mais innocents, et rouges comme notre sang. De les redire ici, je n'ose. J'ai tenté de brûler ces pages, rien à faire, et je les relis. Tes arrondis, les yeux remplis de ces courbes à ton image, on s'écrivait. Poste restante au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans-logis. Que sont les amours débutantes? Quand tu me griffais de ta plume, je restais tout pâle, interdit sous ta griffe encore aujourd'hui. Ma fièvre ancienne se rallume. Depuis lors, sous d'autres couleurs, j'ai battu, je me suis fait battre. Ta guerre seule est opiniâtre. Tu m'avais fait battre le cœur. On s'écrivait, poste restante, au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans-logis. Que sont les amours débutantes? Un jour ma lettre me revint, tu n'allais plus jusqu'à la poste, tu avais déserté le poste, et mes lettres partaient en vain, et revenaient me prendre ailleurs, ici, là, je changeais d'adresse. Et m'atteignait dans ma détresse tous ces retours à l'envoyeur. On s'écrivait, postes restantes au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans-logis, que sont les amours débutantes, que monte une flamme nouvelle sur cette cendre désormais. Si tu vois combien je t'aimais, entre tes lignes se révèle ce qu'hier je n'ai pas su lire. Il faut du temps pour faire un cœur. N'as-tu pas détruit par rancœur ce qu'hier je n'ai pas su dire? On s'écrivait, poste restante au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans-logis, que sont les amours débutantes, que sont les amours débutantes.
Le neveu avait été clair. Je ne devais lui renvoyer que les documents tels que les factures ou les courriers administratifs. Tout ce qui, de près ou de loin, pouvait sembler personnel ne l'intéressait pas. Il crut bon de rajouter que, de toute façon, il n'aurait pas le temps de s'en occuper, mais cela, pour moi, tombait sous le sens. Commença donc ma collecte du courrier de M. D, pour ma plus grande surprise et pour mon plus grand bonheur. Si le flux des lettres officielles fut assez limité, par contre, le courrier privé était extrêmement dense et régulier. Et il s'agissait toujours de lettres de femmes. Je le savais car l'écriture était souvent révélatrice et, de plus, les noms au dos des enveloppes le confirmaient presque toujours. Plusieurs de ces lettres arrivaient chaque semaine, au moins deux ou trois, et, au début, surpris et désarmé, je ne sus que faire. Puis, un jour, alors qu'elles s'accumulaient sur la table basse de mon salon, je résolus de les ouvrir et de les lire. Je me trouvais, pour justifier cette intrusion dans l'intimité de M. D, une pieuse mais bien hypocrite excuse. Je devais prévenir ces femmes que le destinataire de leurs lettres était mort. Mais, à leur lecture, je changeais d'avis. Oh, il n'avait rien de grivois, ces courriers. Il n'avait rien qui pût suggérer, même de loin, que M. D ait entretenu avec leur rédactrice une quelconque relation amoureuse, même épistolaire. Non, il s'agissait plutôt d'échanges empreints d'une amitié à la fois simple et intime, qui, selon les cas, prenait de nombreux aspects. Certains étaient légers et enjoués, d'autres tout en retenue, pudiques et délicats. Parfois, ils abordaient de simples aspects quotidiens. Parfois, ils évoquaient des difficultés douloureuses, la mort d'un proche, la maladie, un enfant qui partait à la dérive. Plus ces courriers me parvenaient, plus j'en prenais connaissance et plus s'imposait à moi cette obligation morale et humaine, je devais leur répondre exactement comme si c'était M. D qui leur répondait.
T'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd. Si je t'écris ce soir de Vienne, c'est beau, tu sais, l'automne à Vienne. C'est que sans réfléchir, j'ai préféré partir et je suis à Vienne sans toi. Je marche, je rêve dans Vienne, sur trois temps de valse lointaine. Il semble que des ombres tournent et se confondent, qu'ils étaient beaux les soirs de Vienne. Ta lettre a dû croiser la mienne. Non, je ne veux pas que tu viennes. Je suis seule et puis j'aime être libre. Oh que j'aime, c'est cet exil à Vienne sans toi. Chez une vieille dame autrichienne, comme il en existe qu'à Vienne, je loge dans ma chambre tombe de pourpre et d'ambre, de lourdes tentures de soie. C'est beau à travers les persiennes, je vois l'église de Saint-Étienne. Et quand le soir se pose, c'est bleu, c'est gris, c'est mauve, et la nuit par-dessus les toits. Que c'est beau, Vienne, que c'est beau, Vienne. Cela va faire une semaine, déjà, que je suis seule à Vienne. C'est curieux le hasard, j'ai croisé l'autre soir nos amis de l'Untachimo. Cela va faire une semaine, ils étaient de passage à Vienne. Ils n'ont rien demandé, mais se sont étonnés de me voir à Vienne sans toi. Moi, je me promène, je suis bien, si bien. Et puis, de semaine en semaine, voilà que je vis seule à Vienne. Tes lettres se font rares, peut-être qu'autre part, tu as trouvé l'oubli de moi. Je lis, j'écris, mais quand même, pour qu'il est long l'automne à Vienne. Dans ce lieu de place où la nuit je me glace, tout à coup j'ai le mal de toi. Mais que c'est long, Vienne, que c'est loin, Vienne. Si je t'écris ce soir de Vienne, chérie, je veux que tu comprennes. J'avais choisi l'absence que comme dernière chance, notre ciel devenait si lourd. Et toi de Paris jusqu'à Vienne, au bout d'une invisible chaîne, tu me guettais, je pense, jouant l'indifférence, et tu m'as gardé malgré moi. Aujourd'hui de Paris à Vienne, je veux mon amour que tu viennes. Tu vois, je m'abandonne, il est si beau l'automne, que je veux le vivre avec toi. C'est bon, Vienne, avec toi, Vienne.
Par chance, j'aime écrire, et j'écris plutôt bien, mais je n'avais pas rédigé de lettres depuis bien longtemps. Je me mis à la tâche avec une ardeur et une discipline qui transforma mon existence. Il me fallut évidemment surmonter quelques difficultés pratiques. Ainsi, comme je ne pouvais pas imiter l'écriture de M. D, je dis à mes correspondantes qu'une crise d'arthrose subite m'empêchait de tenir un stylo pendant plus de quelques instants. Je devais donc m'en remettre à la froide monotonie d'un traitement de texte et, bien sûr, je m'en excusais. Ensuite, pour être sûr de ne rater aucun des futurs courriers de réponse, j'indiquais que j'avais déménagé, tout en restant dans le même quartier. J'avais donc pris la décision, pour éviter que ma correspondance ne s'égare, de louer une boîte aux lettres dans le bureau de poste situé près de chez moi. Ainsi, d'un strict point de vue pratique, ma toile fut vite assez solide pour que je n'éveille aucun soupçon sur le fait que j'avais usurpé l'identité épistolaire de M. D. Mais cela ne résolvait pas l'équation, que dis-je. Les équations affectives et humaines fondamentales de ces échanges. Chacune de ces femmes était différente de l'autre. Monsieur D les connaissait toutes depuis longtemps et moi, je devais tout redécouvrir. Exercice passionnant, intense et épuisant. Et je relevais le gant dans cette joute écrite avec un orgueil de chevalier des anciens temps. J'étais condamné à adopter une approche prudente. Lorsque je fis mes premières réponses, j'évitais de rentrer dans des détails qui m'auraient trahi et je me contentais de donner un avis très général dans le but d'en apprendre peu à peu davantage sur celle qui avait écrit. Je fis un recensement chronologique strict et systématique des courriers, date de réception et date de réponse, adresse, éléments biographiques précis des autrices, et ainsi de suite. Peu à peu, le cahier dans lequel je notais ces informations s'enrichit d'une façon stupéfiante et, au bout de plusieurs mois, je savais de ces femmes tout ce que je devais savoir pour poursuivre la correspondance de M. D. En un mot commençant, je les connaissais enfin. Chose plus étonnante, je m'étais glissé dans la peau de mon ancien voisin, au moins du point de vue épistolaire, d'une manière tellement convaincante. Je jouais son rôle avec une telle perfection que jamais personne ne découvrit l'imposture. Imposture, ici, d'ailleurs, est un mot mal choisi, car je suis constamment demeuré fidèle à l'esprit et à la lettre de mon prédécesseur.
Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer, que tu es là tout près de moi, je peux m'imaginer tout bas une déclaration, ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Je ne pourrais jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration. Je t'aime quand tu es près de moi. Je t'aime quand tu n'es pas là. Je pense à toi. Je t'aime quand tu souris.
Une déclaration. Ma déclaration.
Je veux des souvenirs avec toi. Des images avec toi. Des voyages avec toi. Je me sens bien quand tu es là.
Une déclaration. Ma déclaration.
Je t'aime quand tu es triste, que tu ne dis rien. Je t'aime quand je te parle et que tu n'écoutes pas. Je me sens bien quand tu es là.
Une question lancinante se posa quelque temps à moi. Comment et quand ces échanges avaient-ils vu le jour ? Je finis par obtenir la réponse au hasard des lettres en recoupant une information, puis une autre. Toutes ces relations par voie postale avaient débuté grâce aux petites annonces qui paraissaient dans certains journaux autour des années 70. Dans le vaste mouvement de libération de la parole qui avait suivi mai 68, des gens de tous milieux, de toutes catégories, avait décidé d'engager des échanges de lettres sans d'autre but que de partager des tranches de vie, des sentiments, des faits ou des émotions difficiles à exprimer en public et, plus encore, parfois, à des proches. La lettre envoyée par la poste, à la fois secrète et intime, derrière laquelle on pouvait se cacher un peu, tout en dévoilant beaucoup, était un moyen idéal pour parler aux autres de soi. Monsieur D, fidèle à son idéal de jeunesse, n'avait jamais perdu cette habitude. À travers cela, et à travers d'autres indices glanés au hasard des mots, je découvris qu'il était un révolutionnaire doux, un rêveur obstiné, un être délicat et secret, et, si j'osais, je dirais qu'il était un poète qui s'ignorait et qui n'aurait pas voulu qu'on le désignât ainsi. Je regrettais de l'avoir si peu fréquenté, mais, d'un autre côté, j'aimais aussi penser à lui comme à un ami inconnu, exactement sans doute comme toutes ses correspondantes pensaient à lui.
Au bout du téléphone, il y a votre voix, et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire, et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive. Attendez-moi. Nous allons nous connaître. Préparez votre temps. Pour vous, j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd. J'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être.
Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine. Car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu...
Maintenant que les lettres se font de plus en plus rares, la faute au temps qui passe, je suis convaincu d'avoir pris la bonne décision le jour où j'ai résolu de devenir le secrétaire et la plume posthume de mon merveilleux voisin. Cela a prolongé le bonheur de nombreuses femmes, les a un peu protégées de la solitude et, de mon côté, cela a donné un sens inattendu à ma vie. Un jour, il y a longtemps déjà, lorsque j'étais encore assez courageux, physiquement, pour le faire, je suis allé à Ribérac rendre visite à M. D dans son cimetière. J'avais écrit une lettre juste pour lui et j'avais décidé de la déposer sur sa tombe. Je lui exprimais ma gratitude et formulais l'espoir qu'il ne m'en voudrait pas de m'être ainsi glissé dans une partie si secrète de sa vie. Enfin, je lui disais, pour plaisanter, que j'aurais bien aimé recevoir moi aussi un jour une lettre écrite de sa main à lui, une lettre pensée, construite et signée par lui. Une fois ce court message déposé sur le marbre du caveau, je m'en fus, le cœur léger, mais alors que je quittais le cimetière, je m'aperçus que j'avais oublié de préciser mon nom et mon adresse au dos de l'enveloppe. C'était ridicule, bien sûr, et tout à fait inutile, mais cela faisait partie du cérémonial des lettres que recevait M. D, et je décidai de faire demi-tour pour réparer cet oubli. Mais la lettre n'était plus là. Pourtant, le cimetière était désert, et il n'y avait pas de vent. Je ne me suis jamais expliqué cette disparition soudaine, et, bien sûr, je n'ai jamais reçu de réponse. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Si j'avais mis mon adresse, M. de Bergerac m'aurait répondu. Il était trop délicat pour ne pas le faire.
Quelques-unes de mes pensées se défendent. Elles m'échappent, elles se drapent dans leur manteau de saison. J'imagine qu'elles terminent leur course au bord de ton balcon. On devrait correspondre, puisque tu me corresponds. Que deviennent mes poèmes quand ils prennent l'horizon? Où partent toutes ces cartes qui se décrochent de mes cloisons? Certaines me reviennent un peu plus troublées que de raison. On devrait correspondre, puisque tu me corresponds. Si je savais tourner autour de la terre, si je savais comment faire, j'avais ce don, je me collerais contre tes volets de fer, j'y resterais tant qu'à faire pour de bon. Sous le fluide qui les guide, toutes mes pensées s'en vont. Je peux pas croire qu'elles s'égarent avant d'avoir trouvé ta maison. Je présume qu'elles y allument toutes les lampes de ton salon. On devrait correspondre, puisque tu me corresponds. Je pensais tenir sous contrôle tout mon cortège d'envie, et je vois bien qu'à tour de rôle chacune d'elles s'enfuit en longue portée de corolle qui partent pour leur plus beau rôle, s'enrouler à tes épaules comme tout ce que j'écris. Thank you. avais ce don. Je me collerais contre tes volets de fer. J'y resterais tant qu'à faire pour de bon. Sous la lune, quelques-unes de mes pensées se défont. Elles s'élèvent et mon rêve à tes lèvres loin se confond. Quelle chance quand j'y pense. Je suis sûr qu'il danse à ton front. On devrait correspondre puisque tu me corresponds. On devrait correspondre puisque tu me corresponds. On devrait correspondre.